Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, Leorechem Tovim Leimim, nous poursuivons notre lecture du livre fabuleux, lumineux d'intelligence, rayon de lumière et de vie, le Zera Shimshon du maître illustre, Rabbeinu Shimshon Haim Nahmani Zechuto Tagen Alenu. Nous sommes Parashat Nitzavim au Darush Aleph. Or, cette étude est dédiée pour l'élévation de l'âme de Yvette Halou Bat-Juli, Rohamad Zikolet Bat-Ninet, Mordechai Bariza, Binyam Yaakov Bar, Zohar et tous les ceux qui sont Niftarim, Zichonam, les Haya Olam. Pour la Refoa Shelema, Refoa Tanefesh, Khwata Gouf, de Shimon Bar Machlov, Nissan Tzvi Bar Dvora, Yodit Eugénie Michel Bat Rahel, Madame Bracha Bat Haya Feigel, Aaron, Bar Sara, Haïm Bar Simi, Shimon Bar Josephine, Shalom Bar Simi, Vishar Kol Hole Amo Israël. Anna Elna Rafanem, Kadosh Baruch Hu leur octroie la santé et une longue vie. Que tous ceux qui sont en attente, qui espèrent un changement dans leur vie, qui espèrent une délivrance, trouver un époux, une épouse, de fonder un foyer, d'avoir des enfants, d'avoir une meilleure parnassa, d'avoir la guérison, de toutes sortes, de sortir de toutes sortes d'oppressions et de situations difficiles, par le mérite du Rab, par le mérite de cette étude lumineuse, Akadosh Baruch Hu exaucera chacun et la délivrance, le salut parviendra à chacun de manière soudaine, sans qu'on s'y attende. Ezrenu b'shem Adonai, osé shamayim va'aretz. Au début de la paracha, il s'agit, Moshe Rabbeinu rassemble le peuple, et les place tous les membres du peuple. Il cite tout le monde. Vous vous tenez aujourd'hui devant Hachem, votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, vos policiers, tous les hommes d'Israël, les enfants, les femmes, les étrangers, les convertis, etc., depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. Tous ces gens-là sont là, debout, présents pour passer dans l'alliance. On va contracter une alliance spécifique, particulière, le Ovrecha Bebrit. On dit passer dans l'alliance. Donc il y a, l'alliance se contracte entre Am Israël, chacun va accepter cette alliance, et Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-il dit? Alors dans cette alliance-là, on nous met en garde, et on nous dit qu'il faut faire très attention d'accomplir parfaitement la Torah et les mitzvot. Sans ça, il y a des conséquences terribles. Toutes sortes de problèmes, et on jure, on fait un serment d'accomplir, non seulement ceux qui sont présents là-bas, mais et à Sheyeshnopo, Imanuayom, ceux qui sont présents là aujourd'hui, et même ceux qui ne sont pas présents. Et après cela, il est dit, Rashi souligne, que pourquoi cette alliance, cette paracha, est collée, juxtaposée, elle succède immédiatement au... La paracha de Kitavo, où nous avons vu la semaine dernière qu'il y a 98 malédictions. Alors Rashi dit, Lama nismecha, en fait Rashi ramène un midrash agada, Lama nismecha parashat atem nitzavim, les klalotes. Pourquoi donc la paracha de atem nitzavim a été immédiatement suivie immédiatement celle des malédictions? Alors Rashi répond, parce que quand Israël a entendu les 100 malédictions moins 2, en plus des 49 qui sont marquées dans Parasha, dans le Sefer Devarim, dans Bechokotai, dans Torah de Kohanim, ils sont devenus verts de terreur et ils ont dit, qui pourra faire face à celle-là? Qu'est-ce qui peut tenir devant ces 98 malédictions? 100 moins 2, nous dit le Midrash. Et alors, Moshe s'emploie à les apaiser. Il s'investit pour les tranquilliser. Alors, que leur dit-il? Vous vous tenez aujourd'hui tous là devant Hachem. Vous l'avez souvent irrité, sans qu'il vous ait exterminé. Et vous êtes maintenu devant vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait le Hegel. Alors, il va citer, le Midrash va citer toutes les dérives de Ram Israël durant 40 ans dans le désert. Et malgré tout, Moshe leur dit, Akadosh Baruch Hu ne vous a pas exterminé. La question se pose, ça c'est le Lachon Midrash rapporté par Rashi. La question se pose, nous dit le Rav, Il y a plusieurs questions qui se posent. La première, c'est pourquoi ils ont été verts de terreur, pris, saisis d'une terreur terrible, spécifiquement dans les malédictions de Kitavo. Et pas celle de Berhukotai. Voilà que dans Berhukotai, il y en a 39, mais il suffit de les lire pour voir qu'elles sont terribles aussi. Qu'une seule malédiction qui est mentionnée dans Berhukotai est suffisante pour mettre le peuple en effroi, le faire trembler de crainte et de frayeur. Alors pourquoi n'ont-ils pas eu peur de celle de Berhukotai et ils ont peur de celle-ci? Deuxièmement, pourquoi le Midrash dit, dans les traductions, on traduit 98 malédictions, mais ce n'est pas le texte, le texte du Midrash ne dit pas cela. Le texte du Midrash précise, 100 moins 2. S'il avait voulu dire 98, il aurait dit 98. Alors on s'interroge, pourquoi dit-il 100 moins 2? C'est quoi cette manière de compter? Et Bémet, il y en a 100, il n'y en a pas 100, il n'y en a que 98. Alors pourquoi dit-il 100 moins 2? Et deuxièmement, en plus... Il y a une question qui se pose. Qu'est-ce que ça veut dire, Moshe va apaiser Israël. Il leur dit, vous avez contracté l'alliance. Atem, nitzavim, ayom, kulechem. Donc il dit, c'est là, à travers ces paroles que Moshe exprime. Atem, nitzavim, ayom, vous tenez tous là présents. Vous allez contracter l'alliance. Et cette alliance-là est suivie de serments et de sanctions, etc. Terrible. Alors en quoi le fait d'avoir transgressé le veau d'or, d'avoir fait le veau d'or, ils n'ont pas été exterminés? Peut-être c'est évident, parce que à cette époque-là, ils n'avaient pas contracté cette alliance. Ils ne s'étaient pas engagés au péril de leur vie. Maintenant que cette alliance-là est contractée, et qu'il y a les halotes, les sanctions, les serments, le serment, etc., peut-être qu'à présent ça va changer. Et en quoi ce que dit Moshe va solutionner, va les apaiser? Yeshomar, nous dit le Rav. D'Aïkar, en vérité, il dit le Rav, que pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'il y en a 100 moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire 100 moins 2? Parce qu'il y en a 98 qui sont écrites, et il y en a 2 qui ne sont pas écrites. Il est dit dans le verset, « Vegam kol holi ve kol maka » Le verset dit, même toutes les maladies et toutes les plaies qu'Hachem a frappées, le verset dit que Akadosh Baruch Hu va ajouter, il y a d'autres malédictions qui ne sont pas mentionnées, qui ne sont pas citées explicitement, qu'Akadosh Baruch Hu va les prendre et va les mettre sur vous, et jusqu'à extermination. Gam kol holi ve kol maka asher lo katuv basefer haTorah besefer haTorah azot. Également toute maladie et tout coup, toute plaie qui n'est pas écrit dans le livre de cette Torah, Hachem les fera monter sur toi jusqu'à ton extermination. C'est quoi là? Il y a deux choses ici qui ne sont pas écrites, mais Hachem va te les placer et il va t'exterminer si tu le mérites évidemment. Donc ici, il y a deux makot qui sont pas définis. Alors, qu'est-ce que dit le peuple? On a peur de ce qui est inconnu. On a peur de ce qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est. Gameleim shekalot hali holi ou maka ela shelo nichtevu vimken emme aklalot. Donc, on trouve qu'il y a 100 klalot. Il y a 98 qui sont inscrites, puis ces deux-là qui sont pas définis. Des maladies et des plaies qui ne sont pas marquées dans ce sefer Torah. Donc, on trouve vraiment 100. Mais non, mais il y a deux catégories. Il y a 98 qui sont écrites et deux qui ne sont pas écrites. Alors la question, elle est, pourquoi ces deux-là n'ont pas été écrites et les autres ont été écrites? Alors, on dit le Rav, qu'on peut imaginer que celles qui ont été écrites sont dures, elles sont à prendre au sens littéral. Donc, que toutes ces makotes-là sont terribles, on peut avoir peur. Et les deux qui ne sont pas écrites sont moins graves. On aurait pu dire ça. Ominaïm des frères. Alors donc c'est donc qu'il y a une différence. Charé, Alma, chez Amar Yaakov. Alors il amène l'histoire de Yaakov. Quand Rivka entend que Yitzhak veut bénir Esav, alors il dit va chercher du gibier, va me faire un plat que je vais aimer, que j'aime, et afin que je te bénisse. Alors que dit Rivka à son fils Yaakov? Il dit, va chercher deux agneaux du troupeau, je vais les préparer, et tu vas rentrer, tu vas prendre la place de Esav, le temps qu'il est parti chercher, faire à la chasse, et toi, tu vas prendre les brachot. Et que dit alors Yaakov à sa mère? Il dit, peut-être que mon père va vouloir me tâter, me toucher. Il va vouloir, il va me dire, rapproche-toi, je vais voir qui c'est toi. Il veut lui mettre pour bénir parfois. On veut toucher le visage de l'enfant, on lui touche le visage, on lui touche les bras, on veut le bénir. Alors on le caresse et on le... Alors il va me toucher, il va voir que je suis pas Esav, Esav est poilu, et moi je suis pas poilu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors dit le pasouk, Oulai Mosheni Avi, je serai comme un trompeur, comme un fourbe. C'est comme si que mon père va s'apercevoir que j'ai voulu le tromper. Et je ferai venir sur moi une malédiction et non une bénédiction. Alors sur ce verset-là aussi, il y a les questions s'amoncellent. Qu'est-ce que ça veut dire que je vais amener sur moi une malédiction? Pourquoi il ne dit pas... Mon père, il va se fâcher, il va s'apercevoir que j'ai voulu le tromper, il va me maudire. Simple. Et après, il dit, j'amènerai sur moi une malédiction et non une bénédiction. Pourquoi? C'est une répétition. C'est sûr que si le père va le maudire, il aura une malédiction et non pas une bénédiction, il ne va pas le bénir après. Donc, il y a ici une problématique dans ce verset. De quoi s'agit-il? Alors, on nous dit le Rav, combien on a vu dans la semaine dernière, justement, un pasouk. Il est dit, « Ma'arour, mashgeh aiver badderer ». Maudit soit celui qui trompe l'aveugle dans le chemin. Et Ve'amar kol ha'am, amen. Et tout le peuple a répondu amen. De quoi s'agit-il? Ça veut dire quoi, tromper un aveugle en chemin? Au sens simple, ça signifie, on rencontre un aveugle et il me dit, il te demande, donne-moi la direction, où est la mairie? Alors au lieu de l'envoyer à la mairie, tu l'envoies dans la direction opposée. Donc tu l'as trompé. C'est le sens simple. Rashi ne dit pas cela. Rashi explique le verset. C'est celui qui donne un mauvais conseil. Il ne s'agit pas vraiment d'un aveugle. Il s'agit de quelqu'un qui est aveugle sur un sujet. Il ne sait pas, il n'y connaît rien. Alors il dit, voilà, j'ai un peu d'argent, je voudrais investir, par exemple. Alors donne-moi un conseil. Est-ce que toi qui es dans la finance, tu me conseillerais d'acheter telle action ou d'investir à tel endroit? Et toi, si tu sais pertinemment que c'est pas bon à faire, tu lui donnes un mauvais conseil. Et lui, il va perdre son argent. Alors, c'est sur ça qu'il est dit, Arour, Mashgeh Aiver Badarer. Celui qui donne un mauvais conseil. Yaakov avait un doute. Comment comprendre ce verset? Faut-il le comprendre au sens littéral? Ou faut-il le comprendre de manière allégorique? Comme nous l'avons expliqué, c'est celui qui donne un mauvais conseil. Alors si je dis que c'est au sens littéral, alors à ce moment-là, on comprend le verset. Alors il dit à sa mère, peut-être que mon père va vouloir me toucher et me tâter, il va s'apercevoir que je ne suis pas Esav, donc je serai entré dans le concept de maudit soit celui qui a voulu tromper l'aveugle. Celui qui trompe l'aveugle, lui, il lui dit, Esav, est-ce que tu es Esav? Il dit, oui, c'est moi Esav. Il dit, viens, approche-toi. Il le touche, il dit, mais c'est pas Esav, il est poilu, toi, tu n'es pas poilu. Qui es-tu? Ah, je suis Yaakov. Ah, tu es Yaakov? Oh là, bon, d'accord, c'est pas grave, je vais te bénir. Malgré tout, Yitzhak, il veut bénir Yaakov. Oui, mais si Yaakov a trompé l'aveugle qui est Yitzhak, donc il mérite la malédiction qui est marquée dans Parashat Kitavo. Arour, Mashgeh, Iver, Badarer, celui qui a trompé l'aveugle, il a voulu lui faire croire qu'il était Esav alors qu'il est Yaakov. Alors il dit, si la malédiction, elle tombe sur moi, elle vient d'où elle vient? C'est ça le sens. Je ferai amener sur moi, mon acte va causer que la malédiction arrive sur moi. Non pas celle de mon père, mais celle de celui qui a trompé l'aveugle. Alors à ce moment-là, même si mon père il voudra me bénir, il pourra pas me bénir parce que là où s'est installée la malédiction, la bracha, la bénédiction ne peut pas venir s'inclure sur une malédiction. C'est ça le sens. Veveti alai bekelala de Arour Aish, maudit soit celui qui trompe l'aveugle. Velo beracha et non pas une bracha. Même si mon père il voudra quand même me bénir, ça marchera pas. Et sur cela, que lui répond sa mère? Elle lui dit non, c'est Allah qui l'élatera béni. Ta malédiction, elle tombera sur moi. Pourquoi sur elle? Il dit parce qu'il ne comprend pas le verset au sens littéral. Tu dois le comprendre au sens allégorique, comme l'a expliqué Rashi. Comment? C'est-à-dire, il ne s'agit pas de tromper un aveugle vraiment. C'est celui qui donne un mauvais conseil. Et le conseil, c'est moi qui l'ai donné. Il y a Yitzhak qui veut bénir Esav. Et Rivka fait tout, lui donne un conseil par ses manigances en faisant cela. Elle lui dit comme si elle le conseil de bénir Yaakov et non pas Esav. Est-ce que c'est un bon conseil ou un mauvais conseil? Évidemment que c'est un bon conseil. Donc il dit si BMS c'est un mauvais conseil, alors c'est sûrement que la malédiction viendra de cette malédiction-là de maudit celui qui donne un mauvais conseil à l'aveugle, elle tombera sur Rivka et non pas sur Yaakov. Si c'est ainsi, nous voyons que la malédiction est à expliquer, doit être comprise, peut être comprise de deux manières. Ou bien dans le sens littéral, tel qu'elle est écrite, ou bien de manière allégorique. En vérité, ce n'est pas une malédiction. Les 98 malédictions peuvent être interprétées de telle sorte qu'elles ne sont pas des malédictions du tout. Nous allons voir tout de suite. La Gemara dans Brachot à la page 56a nous raconte qu'il y avait un monsieur, la Gemara dit avant cela, que les rêves se réalisent selon l'interprétation qu'on leur donne. Si tu fais un rêve et il te paraît un cauchemar, une catastrophe, explique-le bien, comme tu veux. De toute façon, tu peux l'expliquer bien. Tu racontes ton rêve à un ami et tu dis, voilà, je te raconte un rêve, un cauchemar, mais explique-le-moi bien. Alors, il y avait un monsieur qui savait interpréter les rêves. Alors, ce monsieur-là, il adaptait son interprétation. Est-ce qu'on le paye ou on le paye pas? Quand on lui donnait un salaire, on lui donnait une pièce, alors il interprétait le rêve de manière favorable. Et quand on lui donnait pour le payer pas, il interprétait le rêve avec malveillance. Alors, la Gemara dit, Abaye et Rava, ils ont rêvé, ils ont fait le même rêve un soir. Et ils arrivent chez ce monsieur-là. Tous les deux savent, ils ont parlé, ils ont dit on fait le même rêve. Donc ils arrivent chez ce monsieur-là, et ce monsieur-là, qui s'appelait Baradia. Alors Baradia, Abaye lui donne une pièce, il avait l'habitude de le payer. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu dans le rêve? Ils ont vu une des malédictions de la parashat Kitavo. Qu'est-il dit? Shocha tavuah le'enecha. Ton taureau sera égorgé devant toi et tu n'en mangeras pas. C'est une malédiction terrible. Ça signifie au sens simple que toute ta production, tout ton travail, etc., tu vas voir la richesse devant toi, le fruit de ton travail, sa richesse, la prospérité devant toi, et tu ne pourras pas en jouir. C'est d'autres qui en jouiront, ou ce sera perdu. Alors il lui dit, voilà, dans le rêve, on a vu ça. On a vu ce passouk, on a vu qu'on nous récitait ce passouk. Alors Abaye, il donne une pièce. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, toi Abaye, ah, c'est très bien pour toi. Que se passe-t-il? Tu vas réussir dans les affaires, tu vas gagner énormément d'argent, tu vas avoir une prospérité excellente, extraordinaire, une abondance terrible, et tu seras tellement joyeux, toi tellement content, tellement de bonheur et de satisfaction, que tu seras rassasié, tu n'auras même plus besoin de manger. Ça, c'est l'interprétation qu'il a dit, parce que tu ne pourras pas manger, alors c'est ça ce que ça veut dire. Rava, il vient, il se présente, il dit, moi aussi, explique-moi le rêve. Il dit, toi, puisque tu ne payes pas, il ne lui dit pas, mais c'est la raison, il dit, puisque tu ne me payes pas, alors sache que toi, toutes tes affaires vont faire faillite, tu vas faire faillite, tu vas perdre tout ton bien, tout, etc. Tu auras tellement de souffrance, la déprime totale, tu seras totalement, tu perdras tellement que tu seras déprimé par ta faillite et ta perte dans les affaires, que tu perdras le goût de manger. Même sans quand tu mangeras, tu n'auras pas envie de manger. Tu seras dégoûté de manger, tu n'auras même plus. Si le type il se laissera aller, il va tomber en dépression. On voit quoi de cela? on voit que cette interprétation, elle est réelle, puisqu'après la Gemara dit que c'est que ça arrivait, c'est comme il a expliqué, ça s'est arrivé, ça s'est réalisé. Et après, quand Rava il s'est aperçu de la supercherie que le rêve se réalisait selon l'interprétation, il est parti, il a voulu il a maudit, le type il est mort. Il a voulu se venger de lui, il a dit tu m'as fait du mal. On voit que l'explication de la klala, de la malédiction, est à interpréter. On peut l'interpréter bien. En vérité, Baradja, il a expliqué la malédiction comme étant une bracha. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. Et c'est ça ce que dit Moshe au Bnei Israël. Il dit, vous avez entendu les malédictions de Kitavo. Donc c'est terrible les malédictions. Si vous les prenez au sens littéral, alors c'est insupportable. Donc on est vert de terreur et on est saisi d'effroi, on tremble de tout moment, on peut rien faire. On a une crainte terrible qu'il nous arrive un tel malheur. Il dit, mais ne les comprenez pas comme ça. La preuve. Il dit, voilà, vous avez fait le Hegel. Et il y a eu des sanctions, mais c'est pas catastrophique. Parce qu'il est dit, normalement, celui qui fait Avodah Zara, il a remarqué, Zoveh la Elohim Yahoram. Celui qui fait un sacrifice aux idoles, il sera détruit, exterminé. Biltil Hashem Abba, le seul à qui il faut faire les sacrifices, c'est Hashem. Et il a dit, voilà, il y a marqué, Zoveh la Elohim Yahoram. Et vous, avez fait le Hegel. Et malgré tout, vous n'avez pas été exterminé. Donc, il ne faut pas comprendre les malédictions comme étant au sens littéral. Il faut les comprendre au sens allégorique. C'est des brachot, en fait. C'est le sens que Rachid dit, que Moshe a commencé à les apaiser. Et il leur a expliqué ces malédictions-là de manière positive. Ce sont des brachot, d'ailleurs. Ezra, la Gemara dit dans Megillah que Ezra, le scribe, a institué que l'on lise les malédictions de Bechukotai avant Shavuot. Et les malédictions de Kitavo avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a deux minagim pour lire la Torah. Il y a ceux qui lisent comme nous, le Minag Bavel, que nous avons, c'est qu'on lit la Torah, on le termine en un an. Donc c'est normal que Kitavo, il tombe un peu avant Rosh Hashanah. C'est normal. Bon, on fait un partage, un début de Torah à Sukkot, de sorte que on se débrouille pour que toujours Kitavo tombe une semaine avant, une semaine ou deux semaines un peu avant, pas immédiatement avant, parce qu'il faut lire Nitzavim. Donc on est collé. Kitavo et Nitzavim doivent précéder Rosh Hashanah, de manière à avoir l'apaisement. Et avant Shavuot, parce que c'est une année aussi. Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah, les Nidonim al Perot Ha'ilan. C'est le temps des Bikurim, c'est comme un jour de Rosh Hashanah. Mais non, il y a un autre minag, c'est le minag Eretz Israël, il lisait la Torah en 3 ans. Alors si on lit la Torah en 3 ans, comment on s'arrange pour lire Kitavo avant? Alors on sortait Sefer Sheni, et on lisait les classes de Kitavo. De sorte que, la Gemara dit, « Tichle Shana avec Ilotea », que l'année passe et emporte avec elle les malédictions, et que commence une nouvelle année avec toutes les bénédictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on lit les malédictions telles qu'elles sont écrites, alors on les exprime et on les fait passer. Et afin qu'on dévoile, de par la lecture, on dévoile la lecture au sens, on le comprend, la lecture, en lisant, en approfondissant, en entendant, on dévoile la lecture des malédictions, mais on en fait jaillir le sens allégorique qui ne sont que des bénédictions. Alors on dit que l'année, que le sens littéral passe, et que se réalise le sens allégorique. Le vrai sens des malédictions. Parce qu'il n'est pas concevable que dans la Torah, qui est une Torah de vie, elle soit remplie de malédictions, de méchanceté, de peine de mort, etc. Tout ça, ce sont des concepts qui sont étrangers à l'amour et à la lumière de la Torah. La Torah est une Torah de vie. Alors il y a un sens qui est tel quel. Et il faut lui donner le vrai sens. Le vrai sens, c'est que la Torah, c'est la joie, la vie, l'amour, la lumière. Et c'est ça le sens de la takana de Ezra. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu est en train d'expliquer au Bnei Israël.
Maintenant, et ça c'est valable, les malédictions qui sont écrites. Maintenant, les deux qui ne sont pas marqués. Ah, on peut pas. Pourquoi elles ne sont pas marquées? Ah, parce que ces deux-là, tu ne peux pas les interpréter, puisqu'elles ne sont pas marquées. Alors j'aurais pu penser que même les 98, je ne peux pas les interpréter. Alors Moshe leur dit non. Voilà, qu'est-il dit? Nous avons lu les deux malédictions. Il est dit, même toutes les maladies, toutes les plaies, à que je vous il te les mettra jusqu'à qu'ils t'exterminent. Est-ce que c'est possible que Am Israël soit exterminé? C'est impossible. Akadosh Baruch Hu ne peut pas exterminer Am Israël parce qu'il a juré à Avot Akedoshim, Avraham, Israël et Jacob, que Am Israël sera éternel. Et c'est une partie de la prière de Moshe. Tu as juré en ton nom de telle manière que ton nom est éternel, Am Israël aussi, il ne peut être qu'éternel. Donc même quand il y a marqué Ishamdar, qui t'extermine jusqu'à l'extermination d'Israël, il n'y a pas, ça n'existe pas. Il faut le comprendre différemment. Il n'y a pas d'extermination d'Israël. Si Akadosh Baruch Hu, il extermine Israël, alors qui est-ce qui va remplacer? Netzach Israël et Shaker. On peut pas, Akadosh Baruch Hu, il peut pas changer d'avis. Une fois il prend Israël, une fois il prend quelqu'un d'autre. C'est impossible, c'est pas concevable. Donc Moshe Rabbeinu leur dit de manière explicite que, comprenez, les klalot ne sont pas des klalot, ce sont des brachot. Ne les comprenez pas au sens littéral. Comme l'a expliqué Baradia dans Abaye et Rava. Si c'est ainsi, on peut soupçonner qu'il y ait des hommes qui se disent en entendant ça. Alors si c'est comme ça, alors rien ne nous arrive. Ils disent, Bémet, les clalotes, elles sont des clalotes. Mais toi tu dis, Moshe, que c'est pas, il ne faut pas les prendre au sens littéral. Alors ça n'arrivera pas, alors si c'est comme ça, je fais ce que je veux. Alors le gars, il entend Moshe, il entend ses clalotes, il entend le commentaire de Moshe, il comprend ce qu'il se dit, il se dit, c'est en vérité Dieu, il ne peut pas nous faire du mal. Si Dieu ne peut pas nous faire du mal, alors on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que ce gars-là, il prend la miséricorde divine, l'amour de Dieu pour Israël, comme étant une faiblesse. Alors il se permet d'aller faire tous les écarts. Qui bichirut libi eler, les mains drevot zava, et tatsebeader. Il va se dire, rien ne m'arrive, etc. Je peux me permettre tous les écarts, toutes les averotes, etc. Il monte ça en théorie. Alors, à ce sujet, il est dit, lo avera donai selohlo. Pour ce bonhomme-là, il est dit, Kajoukho ne lui pardonne pas. Et qu'est-il dit? Il dit, toutes les clalotes qui sont marquées dans ce sefer lui arriveront. Qui sont marquées, dvarim ki pshutan. Comme il dit le pasouk, lo yove adonai selohlo, qui kol ha'ala que tu vas baser ferazé, toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre. Vous savez quoi qui sont écrites? C'est-à-dire que telles quelles, au sens littéral, pour lui, elles s'appliqueront aussi au sens littéral, parce qu'il a dit que ça s'appliquera pas. Alors ça s'appliquera à lui au sens littéral. Mais à tous les autres, on doit tous comprendre que les malédictions sont des bénédictions. Et il n'a rien à mettre. Avec qui le terre, que l'année qui s'écoule, 5778, s'écoule. Avec toutes ces malédictions, elle emporte avec elle les malédictions au sens littéral. Et que l'année à venir, 5779, commence et dévoile les bénédictions. Qu'est-ce que le monde se remplisse de joie et de bonheur, de satisfaction et de prospérité. Akadosh Baruch Hu octroie à chacun tout ce qu'il en attend d'obtenir et de la générosité infinie de Akadosh Baruch Hu. Et que, Bemezat Hashem, nous soyons de ceux qui verront le rétablissement rapide, prochain, du royaume de Dieu sur son monde. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.